Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous, très heureux de vous retrouver. Comme tous les jours, RFI vous donne la parole pour commenter l'actualité. Nous sommes vendredi, vous connaissez le principe du vendredi, c'est la libre antenne. Vous pourrez donc réagir sur tous les sujets qui vous ont marqué ces derniers jours dans l'actualité française, internationale, africaine. Je vous cache pas que ce matin encore, vous êtes très nombreux à souhaiter commenter la situation en Libye, le chaos libyen, avec notamment cette demande des autorités libyennes de lever l'embargo sur les armes pour permettre à l'armée libyenne d'être équipé et de faire face et de lutter contre le terrorisme qui sévit sur le territoire libyen. Intervention militaire, levée de l'embargo ou pourquoi pas dialogue politique comme le suggèrent les Américains. On en parlera évidemment ensemble. Ça fait partie des sujets sur lesquels vous souhaitez commenter l'actualité. La lutte contre Boko Haram, évidemment, encore cette semaine. De nombreuses réactions au standard. Pour nous rejoindre, un seul numéro, 33 9 693 693 70. 09 693 693 70 si vous nous appelez de France, et vous continuez à nous poster vos commentaires sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, c'est votre rendez-vous quotidien avec les journalistes d'RFI. Ce sont vos questions pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité. La première question, elle nous vient de Richard Toll, c'est au Sénégal. Bonjour Mokhtar.
Oui, bonjour, monsieur Juan Gomez, et salut à tous les auditeurs de la RFI.
Eh bien, on vous salue également. Vous avez des questions sur un projet pour le moins ambitieux, c'est le projet Africa to Moon.
Oui, c'est ça, oui.
On vous écoute.
Oui, oui, ok. L'autre jour, en écoutant la chronique Espace de Patrick Champré, qui est un de vos confrères, j'avais entendu que, via la RFI, qu'un projet nommé Africa to Moon comptait envoyer une fusée sur la Lune. Eh bien, il s'agit d'une fusée construite par les Africains et financée par les Africains. Eh bien, M. Gomez, en entendant cela, je ne peux pas m'empêcher d'émettre quelques réserves.
Ah.
Et qui vont se transformer en interrogation, dont les voici. Quand est-ce que le projet Africa Tout le Monde compte envoyer une fusée sur la Lune? Et pour la deuxième question, est-ce que les pays africains qui font partie intégrante de ce projet dispose de l'arsenal technologique et financier nécessaire pour mener à bien ce projet?
Eh bien, qui de mieux placé que Patrick Chompré pour vous répondre? Bonjour Patrick.
Bonjour Juan, bonjour Mokhtar, bonjour à tous.
Alors vous êtes le chef du service France et c'est vrai que tous les samedis matins à 7h20 et 8h20, vous présentez la chronique Espace. Je le disais, c'est un projet ambitieux puisqu'il s'agit d'envoyer sur la Lune un engin spatial 100% africain. Le nerf de la guerre, évidemment, c'est l'argent. On va y revenir dans un instant. Quand est prévu l'envoi de cette fusée?
Alors d'abord, il faut bien comprendre, Mokhtar, que nous n'en sommes qu'au tout début du projet. C'est vraiment le tout début. C'est un projet qui est piloté par la Fondation pour le Développement Spatial, qui a donc son siège au Cap en Afrique du Sud. Et l'idée, eh bien, c'est de montrer que l'Afrique est capable de réaliser un grand projet technologique. Alors, pour l'instant, le but, c'est de récolter de l'argent. Voilà, vous le disiez, on en est là. Il faut, pour commencer, $150,000 pour lancer une étude de faisabilité. Alors, qui est-ce qui donne? Eh bien, les universités, les laboratoires de recherche, les entreprises et même les particuliers. Vous pouvez contribuer, Juan, si vous voulez, à la fusée africaine. En fait, on était il y a quelques semaines à $20,000. Donc, vous voyez que
20 000 dollars alors qu'on en a besoin de 150 000
pour l'étude de faisabilité.
Ah, oui, oui,
donc
oui.
Là, le but, en fait, c'est de terminer 2015 avec ces $150,000, donc de lancer l'étude de faisabilité à ce moment-là. Donc vous voyez qu'on est dans un processus très très long.
En tout cas, tout le monde peut le financer, c'est important de le rappeler, puisque une collecte de fonds est ouverte depuis plusieurs semaines sur Internet.
Exactement, donc vous allez sur le site Africa to Moon, c'est très facile à trouver, et donc voilà, donc on voit très bien le projet, et puis donc les sommes, donc tout ce qu'il faut donc pour faire ce projet ambitieux, qui est donc un projet sur le long terme, on le comprend bien, mais comme tous les projets ambitieux, eh bien il faut un élan, et c'est cet élan donc que tente de faire naître les instigateurs. Pour mémoire, la Chine, qui a mis cette année, enfin en 2014, un engin sur la Lune, a mis 40 ans pour le faire.
Voilà, donc patience, patience. Ce qui est intéressant, c'est que ce projet a pour finalité d'abord de permettre aux enfants de toutes les écoles africaines de pouvoir recevoir en direct, grâce à Internet, des images de la Lune. Et surtout, autre finalité, c'est peut-être ce qui me semble, moi, la plus importante, c'est promouvoir l'intérêt des jeunes Africains pour les études scientifiques et technologiques. C'est ça, c'est éviter la fuite des cerveaux aussi.
Mais bien sûr, parce que l'Afrique est un continent jeune, on le sait, très jeune. C'est le plus jeune de tous les continents. Il faut donc donner de l'espoir et de l'inspiration à ces jeunes. Ça, c'est le but des instigateurs. Mais aussi, il faut les inciter à poursuivre des études scientifiques. Et une fois qu'ils l'ont fait, il faut éviter la fuite des cerveaux diplômés. Et c'est ça qui est aussi derrière ce projet. Quelque chose d'important aussi, c'est que le projet n'est pas un projet gouvernemental. Il est piloté donc par cette fondation dont je vous parlais, qui s'appuie sur un réseau d'universités, de laboratoires de recherche. Et donc, il se veut un projet panafricain. Voilà. Donc, c'est pas l'Afrique du Sud, même si l'Afrique du Sud, on le sait, a vraiment toute une tradition spatiale avec des laboratoires, avec un observatoire de classe mondiale, des cours à l'université. Mais bon, c'est quelque chose qui se veut panafricain.
Ouais, l'Afrique du Sud qui est leader dans le domaine spatial sur le continent africain.
Tout à fait.
Merci Patrick.
Merci à toi
d'être venu répondre à Mokhtar et on vous retrouve évidemment demain matin dans la matinale des RFI, notamment à 7h20 pour votre chronique hebdomadaire sur l'espace. 9h16 à Paris, ce sont vos questions à la rédaction, 33 9 693 693 70. Anissa El-Jabri du service politique des RFI s'installe dans ce studio tranquillement. Bonjour Anissa.
Bonjour.
Bienvenue, on vous a demandé de venir ce matin, de nous rejoindre. On a des questions concernant la loi Macron et le fameux article 49.3. Bonjour Souma.
Oui, bonjour Monsieur Juan Gomez et bonjour à tous vos assistants de notre émission Appel sur l'actualité.
Merci pour eux, on vous écoute.
Oui, Juan, en fait, je viens d'apprendre ce matin même que le gouvernement français n'a pas réussi à faire passer l'article 49.3 de la Constitution qui visait à faire adopter le projet de loi Macron, ministre de l'économie. Alors, je voudrais savoir pourquoi certains députés de la gauche se sont-ils opposés à ce projet de loi Macron. Et ma deuxième question, que dit cet article 49.3 de la Constitution française et pourquoi dit-on que le recours à cette procédure était un recul de la démocratie alors que cet article-là est prévu par la Constitution française.
Bah oui, merci. Effectivement. Surtout, ne raccrochez pas Anissa El-Jabri. Pour justifier l'utilisation de ce fameux article, Manuel Valls a invoqué l'irresponsabilité, l'immaturité de certains, allusion évidemment aux frondeurs socialistes, car ce projet de loi, Macron, qu'on appelle Macron, mais projet de loi sur la croissance et l'activité, ne faisait pas l'unanimité au sein des socialistes, des députés socialistes.
Loin de là. Alors, il y avait quand même un effet de contexte. La plupart des députés socialistes qui étaient très critiques envers le gouvernement, ces députés-là, on leur avait un petit peu tordu le bras pour voter des textes fondateurs, donc ils l'avaient dit depuis des mois, on va se venger dès qu'on peut. Le texte de loi Macron, c'était entre guillemets l'idéal, il est porté par un ministre que déjà beaucoup de gens à la gauche du Parti Socialiste n'aiment pas, parce que c'est un ancien banquier, il vient de chez Rothschild, il est censé avoir des convictions entre guillemets social-libérales, en tout cas il a fait beaucoup de gaffes vis-à-vis des plus modestes, et ce texte effectivement était jugé comme totalement social-libéral. Surtout, il y avait un vrai chiffon rouge, parce que ce texte était très large. C'était l'extension du travail dominical. Passer de 5 dimanches travaillés à 12 dimanches, même si c'était à la discrétion du maire. Et en plus, ce que disaient beaucoup de députés socialistes, hein, et pas uniquement les frondeurs, c'était fait avec pas beaucoup de garanties, pas beaucoup de compensation salariale, en tout cas pas sur toutes les zones. Et puis, le vrai souci, c'était la question du volontariat. Est-ce qu'un salarié auquel on demandera de travailler le dimanche aura vraiment le choix? Eh bien, dans les petites entreprises, là où il n'y a pas de délégué du personnel, eh bien, ça semble très difficile.
Et donc, comme le vote de cette loi était incertain, eh bien le Premier ministre a dégainé le 49.3.
Voilà, alors ça c'est ce qu'on avait un peu appelé l'arme fatale. Nous, on appelle ça aussi parfois le passage en force, un jugement de valeur. C'est vrai que c'est dans la Constitution. En gros, le Premier ministre engage sa responsabilité sur un texte de loi.
Ça signifie qu'en fait, le Premier ministre peut faire, le gouvernement peut faire passer une loi sans le vote de l'Assemblée.
Alors, sans le voter, et en tout cas, surtout, c'est global. Il n'y a plus d'amendement, il n'y a plus rien. C'est ce texte, je mets ma responsabilité. Si vous n'êtes pas d'accord, débrouillez-vous, proposez une motion de censure. Dans ce cas-là, le gouvernement sera renversé. On imagine qu'il y a forcément des élections derrière. Hein. C'est pas spécifié tel quel. Mais il n'y a pas d'autre choix que de voter tout et on arrête de débattre.
Comment se fait-il qu'un tel texte soit encore présent dans la Constitution alors que beaucoup, et a commencé par François Hollande en 2006, qualifier ce texte, enfin ce 49-3, de déni de démocratie.
Bon, si on remonte quand même à très loin, il faut se rappeler qu'au sein de la gauche, on a toujours critiqué la constitution de la Ve République, rappelons-le, hein, qui avait été initiée par Général de Gaulle. François Mitterrand disait déjà que c'était le coup d'État permanent. Et quand on lui avait demandé pourquoi il avait rien changé à cette constitution quand il était au pouvoir, il avait répondu « la constitution était dangereuse avant moi, elle le sera après moi ». Et ben là, c'est pareil avec le 49-3. C'est vrai qu'en général, on considère que c'est pas très démocratique, entre guillemets. C'est une formule, ça veut pas dire que la France est une dictature, bien sûr. Parce que ça coupe le débat, mais la constitution de la 5e a été faite pour ça, pour qu'à un moment, eh bien, le débat s'arrête, pour qu'il n'y ait pas d'instabilité et pour qu'on force tout le monde à rentrer dans son camp.
Et le 49-3 a été utilisé 82 fois depuis le début de la 5e République. Ce qu'on peut préciser aux auditeurs, et c'est ce qu'on a vécu hier en France à l'Assemblée nationale, c'est qu'en retour, l'opposition peut déposer une motion de censure.
Voilà.
Une fois que le 49-3 est utilisé, l'opposition a cette arme politique.
Oui, mais pour arriver à renverser un gouvernement, vous le dites, il faut arriver à constituer une majorité contre la majorité. Donc d'ailleurs, c'est bien simple, la motion de censure, elle a été votée qu'une seule fois sous la 5e République, c'était en 62. Et puis l'autre petite précision quand même, c'est que François Hollande, qui jugeait ce 49-3 vraiment pas démocratique, eh ben il aurait été le premier chef d'État de gauche à l'utiliser contre sa propre majorité.
Effectivement. Merci beaucoup Anissa El Jabri. Souma, on vous souhaite une bonne journée. 33 9 693 693 70, c'est notre numéro de téléphone. Appelez-nous. Je vous rappelle le principe. Vous nous contactez à Paris. Nous notons votre prénom, votre numéro de téléphone. Et c'est évidemment RFI qui vous rappelle dans la foulée. Donc pour tous ceux qui nous écoutent à l'étranger, surtout, n'hésitez pas à abuser du téléphone. Plusieurs questions sur la situation dans l'Est de l'Ukraine, où le cessez-le-feu signé il y a tout juste une semaine n'est toujours pas effectif. D'ailleurs, hier, les séparatistes pro-russes ont encore mené des attaques. Bonjour Muriel Pomponne.
Bonjour.
Merci d'être avec nous Muriel, vous êtes la correspondante d'RFI à Moscou. La première question sur ce dossier est posée par Gausso, il est à Paris. Bonjour Gausso.
Bonjour Juan Gomez.
On vous écoute, soyez le bienvenu.
Bonjour, je voudrais intervenir concernant les accords de Minsk. Et ma question, elle est la suivante. Quelle est la revendication de Vladimir Poutine et ceux du président ukrainien et Petro Porochenko?
Alors, que revendiquaient à Minsk les présidents ukrainiens et russes, Muriel Pomponne, il y a tout juste une semaine?
Écoutez, tout d'abord, il faut savoir qu'officiellement, ils ne se placent pas sur le même plan. Petro Porochenko représente son pays, tandis que Vladimir Poutine, officiellement, veut seulement être celui qui facilite les contacts entre Kiev et les séparatistes pro-russes. Moscou admet tout juste avoir une certaine influence sur eux. Il est clair, et cela a été dit à Minsk, par exemple pour François Hollande et Angela Merkel, il est clair que le président russe a une influence plutôt plus que certaine sur les séparatistes. D'ailleurs, ils ont tous deux remercié Vladimir Poutine d'avoir fait pression sur ces séparatistes pour qu'ils signent l'accord, puisque je rappelle que l'accord a été signé par le groupe de contact, c'est-à-dire les deux chefs des républiques de Donetsk et Lugansk, Zarkashenko et Pouchilin, l'ancien président ukrainien Kouchma, qui représente Kiev, et en présence de l'ambassadeur russe à Kiev et d'un représentant de l'OSCE, l'Organisation de Sécurité et de Coopération en Europe. Alors, pour revenir plus précisément sur la question de Gausso, Poutine, qui donc officiellement n'a aucune revendication, on sait que depuis le début de la crise, il veut le fédéralisme en Ukraine et la possibilité pour le Donbass de s'opposer aux accords internationaux proposés par Kiev, par exemple une éventuelle demande d'adhésion à l'Union européenne. Ce dont évidemment le président Porochenko ne veut pas entendre parler, il l'a dit et redit, il veut le maintien d'un État unitaire. Du côté de Porochenko, l'une des principales revendications, c'est la fermeture de la frontière entre l'Ukraine et la Russie et le contrôle de cette frontière par l'OSCE, afin que cesse l'aide militaire russe aux séparatistes, une aide que, je vous le rappelle, Moscou dément. Mais Moscou et les séparatistes, bien sûr, ne sont pas pressés d'abandonner le contrôle de cette frontière.
Ouais, autre question au standard, Zakaria. Il est à Ouagadougou. Bonjour Zakaria.
Bonjour Juan.
On vous écoute avec Muriel Pomponne.
J'ai suivi cette semaine la négociation de sortie de crise entre la Russie et l'Ukraine. Et lors de ces négociations, un accord de paix a été signé par les deux parties. Et c'est encore l'IDN du genre. Quelles sont les différences entre les deux accords?
Ah, entre l'accord signé la semaine dernière et le précédent accord, parce qu'effectivement il y a eu un Minsk 1, c'était en septembre dernier, si ma mémoire est bonne, Muriel Pomponne. Quelles sont les principales différences entre ces deux accords?
Oui, alors c'était le 19 septembre. Alors sur certains points, Minsk 2 est plus détaillé. C'est le cas sur la mise en place de la zone démilitarisée, avec une précision sur les distances, les armes concernées. Mais surtout, ce nouvel accord exige une réforme de la constitution ukrainienne en vue d'une décentralisation. Alors la décentralisation figurait dans le document précédent, mais on ne parlait pas de réforme constitutionnelle. En revanche, le terme fédéralisation ne figure pas, Kiev s'y est opposé, mais les régions décentralisées pourraient avoir des pouvoirs assez étendus qui sont énoncés dans le texte, ça ne figurait pas dans Minsk 1. Sur d'autres points, l'accord est en revanche un petit peu plus flou, c'est le cas sur le rétablissement du contrôle total du gouvernement ukrainien sur la frontière avec la Russie. Ce contrôle doit commencer au lendemain des élections locales, mais on ne sait pas quand elles auront lieu, et s'achever à la fin du processus politique, c'est-à-dire fin 2015. Mmh. En ce qui concerne ces élections, c'est seulement qu'elles auront lieu à la suite d'un dialogue entre Kiev et les séparatistes. Là, il n'y a pas vraiment de date. Et puis, autre grosse différence avec l'accord précédent, c'est la question du contrôle de cette frontière, parce que là, le contrôle, il n'est pas précisé qu'il aura lieu par l'OSCE, mais uniquement par les autorités ukrainiennes. Donc, pour Kiev, c'est plutôt un recul. Et puis, le nouvel accord parle aussi du rétablissement des transferts sociaux et du système bancaire dans les zones affectées par le conflit. En clair, Kiev doit reprendre les transferts financiers dans les zones contrôlées avec les rebelles pro-russes, alors que le gouvernement ukrainien les a interrompus en décembre. Par exemple, il ne paye plus les pensions ou les services publics qui ne fonctionnent plus. Et surtout, j'ai envie de dire que la grande différence entre les deux accords, c'est une différence d'esprit, c'est que les quatre chefs d'État et de gouvernement qui étaient présents à Minsk 2, donc le 12 février, sont garants de cet accord. Ils ont publié une déclaration commune en ce sens, une déclaration qui les engage.
Zakaria, vous aviez une autre question.
Exactement. Quelles pourraient être les conséquences si cet accord n'est pas de nouveau respecté?
Ah, en cas d'échec, que prévoit l'accord, Muriel?
Il n'y a rien de prévu formellement, il n'y a rien d'écrit. Hein, d'ailleurs, les Ukrainiens disent que le cessez-le-feu n'est pas respecté. Vous en avez parlé, Juan, il y a eu la débâcle de Devaltseve. Il y a encore des tirs aujourd'hui à Mariupol. Alors, il y a eu des discussions hier entre Hollande, Merkel, Poutine et Porochenko. Pour l'instant, ils disent toujours que le cessez-le-feu est globalement respecté et que le processus de Minsk doit se poursuivre. Alors après, il y a une conséquence éventuelle du non-respect de l'accord qui n'est pas évoqué officiellement, c'est la livraison d'armes éventuellement à l'Ukraine. De ce côté-là, rappelons que les Américains y sont très favorables. Pour l'instant, c'est le président Obama qui s'y oppose. Les Européens, eux, sont résolument contre. Mais en cas d'échec, les Américains pourraient remettre leurs propositions sur la table. Et puis, il y a toujours les sanctions, les fameuses sanctions européennes. Lundi dernier, l'Europe a imposé de nouvelles sanctions à la Russie, ce qui prouve d'ailleurs qu'elle n'est pas d'un très grand optimiste sur la validité des accords de Minsk.
Ah, il nous reste encore 2 minutes 30. On a le temps d'accueillir Patrick, qui nous appelle de Grenoble. Bonjour Patrick.
Bonjour Juan, et bonjour aux éditeurs de RFI.
On vous écoute.
Voilà, toujours sur l'Ukraine. Voilà, après le deuxième cessez-le-feu qui malheureusement n'est pas toujours vraiment effectif. Voilà, moi je voudrais savoir quel est le calendrier des jours à venir et les dispositions qui peuvent être prises par l'Allemagne et la France qui étaient les principaux acteurs de ce cessez-le-feu.
Ah, est-ce qu'un calendrier est prévu, Muriel Pomponne?
Alors il y a le calendrier des accords de Minsk, hein, évidemment, mais qui est déjà dépassé puisque le retrait des armes lourdes n'a pas encore commencé. Il y a par ailleurs quelques points donc qui ne sont pas dans l'accord, par exemple, mais dans la déclaration faite par les chefs d'État de gouvernement, c'est-à-dire un engagement à discuter avec entre l'Union européenne, l'Ukraine et la Russie sur des points qui posent problème comme le gaz et comme également le fait que l'Ukraine donc doit entrer dans l'accord de libre-échange avec l'Union européenne, ce qui pose problème pour la Russie. Mais il n'y a pas un calendrier précis là-dessus. Et j'ajoute également qu'il y a une autre chose, le président Porochenko a demandé à ce qu'il y ait un déploiement d'une mission de paix ONU-Union européenne sur son territoire. Pour l'instant, la Russie y est opposée. Mais là aussi, il n'y a pas de calendrier. C'est une nouvelle idée émise hier par le président Porochenko face à la situation.
À suivre. Merci Muriel Pomponne d'avoir été avec nous en direct de Moscou. On avait prévu d'autres questions sur ce dossier ukrainien. On aura certainement l'occasion de vous rappeler dans les prochains jours. Vous souhaitez d'ailleurs commenter le non-respect de ce cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine. Et bien surtout, n'hésitez pas. La libre antenne, ce sera dans 10 minutes, juste après le journal. toutes vos réactions, vos commentaires sur les sujets de votre choix. 33 9 693 693 70 et les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie après le journal.